place publique.
Les gilets jaunes sont plus que jamais déterminés à poursuivre la mobilisation. Ils maintiennent leur appel à manifester ce samedi à Paris et en province. Et ce, malgré l'attentat de Strasbourg et surtout en dépit des annonces du président Emmanuel Macron. Nous entendrons dans un instant la réaction du représentant des Français de Suisse à l'Assemblée nationale, Joachim Sonneforget. Le vote électronique est-il un moyen fiable et sûr pour voter? La question se pose dans le Jura qui pourrait l'introduire progressivement dès l'année prochaine. Du côté de Neuchâtel, canton pionnier en la matière, pas question d'un retour en arrière. Un permis de conduire moins cher et avec plus d'heures passées au volant avant de l'obtenir, c'est en tout cas l'ambition du Conseil fédéral qui devrait en discuter en cette fin de semaine. Une mesure fait particulièrement débat, l'autorisation de conduire accompagné dès l'âge de 17 ans.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. En dépit de l'alerte terroriste, la France pourrait connaître samedi une cinquième journée de mobilisation à Paris et dans les autres villes du pays. Les gilets jaunes ne baissent pas la garde, et ce malgré les annonces du président Emmanuel Macron. Le chef de l'État a pourtant promis lundi de soulager les plus bas revenus avec des mesures chiffrées à 10 milliards d'euros. Pour Joachim Sonneforget, membre de La République En Marche et représentant des Français de Suisse et du Liechtenstein à l'Assemblée nationale, l'Élysée a su ainsi trouver des réponses pour calmer la colère des manifestants. Voici notre entretien réalisé hier en fin de journée, donc avant les attentats de Strasbourg.
On a une réponse qui est très franchement du jamais vu dans l'histoire politique de la Ve République, d'apporter une réponse concrète en termes de hausse du pouvoir d'achat aussi grande dès janvier 2019. C'est pas simplement qu'on répond à la question immédiate d'un pouvoir d'achat supplémentaire, c'est en plus qu'on continue de s'inscrire dans une discussion avec l'ensemble des concitoyens.
Pour beaucoup, il ne s'agit que d'une accélération de mesures déjà prévues. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant pour combattre ce que Emmanuel Macron lui-même a appelé l'urgence économique et sociale?
Moi, j'ai vu des gilets jaunes le 17 novembre dans le département rural où je suis originaire, en Haute-Marne, et j'ai vu des gens qui étaient sincères, honnêtes, pacifiques, mais qui avaient des questions très précises et qui expliquer qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et moi, ça, je peux l'entendre. Donc, accélérer les réformes pour que cette hausse du pouvoir d'achat qui était prévue originellement par les paliers successifs, pour qu'elle se fasse plus rapidement, de manière plus que les gens soient conscients de cette amélioration tout de suite, maintenant, et je pense que c'est une réponse plus que digne. Du reste, ça posera la difficulté, justement, de continuer d'autres réformes, d'en expliquer peut-être mieux certaines, mais là, il n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on a, depuis le départ, depuis la consultation, même pendant la campagne, travaillé pour améliorer le quotidien des Français. Ça n'a pas d'autre vertu que cela, que d'exercer le pouvoir, finalement. Donc, c'est une réponse qui est extrêmement forte. Il y a l'augmentation du SMIC, c'est 100 euros de net, plus l'augmentation liée à l'inflation d'un 1,8%, plus ce seuil pour la CSG qui ne concernera que les retraites à partir de 2000 euros, 1200 euros. C'est la défiscalisation complète des heures supplémentaires. Ce sont des primes également non soumises à l'impôt et aux charges pour que les employeurs puissent plus facilement finalement récompenser le travail. Pour ne citer que ces mesures-là, ce sont des mesures que je trouve vraiment choc et les gens, ils verront la différence sur leur porte-monnaie à la fin du mois de janvier 2019. C'est immédiat.
Mais par contre, le président Emmanuel Macron refuse de réintroduire l'impôt de solidarité sur la fortune, le fameux ISF. Est-ce que c'est une erreur selon vous? Est-ce qu'il fallait aller jusque-là?
Non, je pense que ça, c'est extrêmement important. Je suis député des Français qui vivent en Suisse. Il se trouve que il y a certaines personnes qui sont certes une minorité de notre électorat, mais qui sont bel et bien là et qui souvent sont des fleurons de l'économie française ou de l'économie mondiale, que moi je souhaiterais voir se réintéresser à des investissements en France. Je peux vous dire que d'après les retours de certains d'entre eux, cette suppression de l'ISF a été très bien vue et ils sont en train de le faire graduellement. Mais ils veulent de la sécurité sur le long terme. Et moi, je veux que ces gens viennent investir en France, continuent ou reviennent investir en France. Et cet impôt sur la fortune, il est clairement... Est-ce que le fait de l'avoir eu pendant autant d'années, ça a empêché les gens de partir? Est-ce que ça a amélioré la condition des Français? La réponse est non. Mais par contre, le maintenir, parce qu'il est maintenu sur la spéculation immobilière, je pense que c'est très bien. Il y a beaucoup de pays par le passé qui ont encouragé des spéculations sur des bulles immobilières, qui ne sont pas une façon de faire vivre une économie. On a pu le voir en Espagne, par exemple. Et je crois qu'en effet, il faut rediriger les investissements vers l'économie réelle. Et c'est ce que permet cette modification à l'ISF, en fait.
Joachim Sonforget, que dire par rapport aux revendications institutionnelles? Pour certains observateurs, le peuple français est infantilisé, hein, réduit à devoir manifester dans la rue son mécontentement. Qu'attendre du pouvoir en place à propos de la loi électorale? Est-ce qu'il faut doter le peuple français de nouveaux outils participatifs?
En fait, je n'ai rien contre le fait que le peuple français manifeste, et j'ai entendu un cadre du FN, très parisien du reste, M. Saint-Just, hier soir, dans une autre intervention où j'étais, qui disait il faut, le président, il cède au peuple. J'ai trouvé ça extrêmement culotté de quelqu'un qui se revendique du peuple, parce que bien sûr qu'on écoute le peuple a le droit de manifester, il a le droit du reste de revendiquer des choses, il a le droit d'être entendu, et finalement, je voudrais vous dire que c'est la même chose que ce qu'on a fait avec En Marche. Les Gilets jaunes, pour moi, et excusez-moi d'être un peu provocateur, ils utilisent la même méthode qu'on a fait avec En Marche, c'est-à-dire qu'ils sont un mouvement citoyen pour se réunir, pour proposer, demander des choses, faire une remontée du bas vers le haut, et ils sont écoutés. Et ça, c'est de la nouvelle politique pour moi. Et donc, je pense que c'est pas du tout un problème que les gens s'expriment. Alors après, avec ma réserve, et cette réserve-là, j'étais très ferme là-dessus, que ça ne soit pas un prétexte à agglutiner une rencontre des extrêmes, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de la violence sous toutes ses formes, parce que ça, c'est inacceptable. J'ai été extrêmement choqué des images de policiers qui se font passer à tabac par des soi-disant gilets jaunes. Moi, j'ai pas vu les mêmes gens sur les caméras à Paris que les gens dont je vous parlais dans nos régions rurales. C'est pas du tout la même essence. Et je souhaiterais qu'on ne fasse pas d'amalgame. Mais le fait qu'il y a un mouvement citoyen qui revendique du bas vers le haut, finalement, c'est peut-être un peu suisse, quelque part.
Justement, vous qui êtes représentant des Français en Suisse à l'Assemblée nationale, ça devrait vous toucher, cette question. Est-ce qu'il ne faut quand même pas réfléchir à des instruments comme un référendum plus systématique ou un droit d'initiative plus étendu?
C'est une question qui revient régulièrement parce qu'on essaie de comparer un peu les deux systèmes, mais je pense que c'est pas applicable à un pays de la taille, hein, de géographique et démographique de la France, le système suisse. Le système suisse, il fonctionne dans un système très décentralisé par canton, avec finalement une gouvernance qui est déjà, relativement optimale, parce que c'est un pays qui a une économie qui va bien, parce que c'est un pays où il n'y a pas une contestation politique forte. Et donc, ça s'accommode de décisions qui sont certainement plus démocratiques, mais plus lentes aussi. Et c'est pas du tout l'essence, finalement, ni l'histoire de la France, ni sa constitution actuelle. Donc, je pense que, néanmoins, il faudrait aller vers des formes de consultation à un niveau local. Je l'ai dit pendant ma campagne, je continue de le dire. Et c'est le sens de cette consultation qui va se faire et que le président souhaite, en mettant en avant nos maires, les maires de nos communes, en mettant en avant d'autres représentations de la population, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, et des formes de mobilisation spontanée comme celle qu'on a vue, qui est respectable à cet égard-là. Donc je pense que là, c'est ce qui est annoncé par le président, c'est qu'on va vers une démarche de consultation. Peut-être qu'il faut changer les choses sur la façon dont on vote, qu'on mieux considérer le vote blanc. Bien, le président l'a dit aussi, j'étais extrêmement intéressé par cette déclaration. Il y a vraiment la prise en considération du fait que les gens maintenant veulent s'exprimer directement, peut-être sont passés par des intermédiaires, les corps intermédiaires dont je vous parlais, et cette nouvelle forme de mobilisation, bien, elle était à l'origine de notre arrivée au pouvoir, et donc il faut respecter d'autres formes qui y ressemblent et qui font des demandes légitimes.
Est-ce que vous ne craignez pas quand même une nouvelle flambée de violence, puisque apparemment les mesures annoncées par Emmanuel Macron ne suffisent pas à calmer les esprits, il y a des appels à manifester pour samedi. Est-ce que vous ne pensez pas que le mouvement maintenant est devenu quasi inarrêtable?
Le sondage aujourd'hui, notamment évidence que il y a plus de 30% des Français qui sont satisfaits, convaincus des annonces du président. Si vous comparez ça avec la cote dernière des présidents, ça veut dire qu'il y a une écoute, il y a quelque chose qui s'est passé. On note aussi dans ces sondages une démobilisation forte de ce soutien large qu'avait la population française au mouvement Gilets jaunes, parce que les Français sont rationnels, les annonces ont été faites, elles sont extrêmement importantes, elles sont très claires. Il n'y a pas de choses dissimulées. J'entendais hier encore des gens, mais ça veut dire que ce serait une augmentation de 100 euros du brut. Donc, c'est une augmentation de 100 euros net plus les 1,2% d'augmentation qui était prévue au 1er janvier. Donc, il n'y a pas d'entourloupe. Les choses sont claires, les Français le comprennent. Les sondages le montrent bien et continueront de le montrer, à mon sens, parce qu'on tiendra ses engagements. Ils vont être tenus demain. Mais par contre, je vous l'ai dit, sur la violence, c'est intransigeant. Il faut que le dispositif de police qui a été mis en place samedi dernier était important, et tant mieux. Les violences qui devaient être calmées, y compris à Mantes, par les jeunes, ont été calmées par des forces de l'ordre courageuses avec les moyens qu'ils avaient à ce moment-là. L'irresponsabilité, c'est les partis politiques qui continuent d'appeler aujourd'hui à l'insurrection. C'est irresponsable.
Place publique. Gabriel Devecq.
Et on est toujours en compagnie de Joachim Son-Forget que nous avons interviewé hier soir. On l'a entendu il y a un instant, il soutient la politique de son président de la République Emmanuel Macron, de la République En Marche. Il s'en fait même l'avocat vigoureux, parfois avec un langage fleuri, si ce n'est pas outrancier. L'élu a par exemple répondu sur Twitter au président américain Donald Trump en écrivant, je cite, « que la France embrasse tes fesses ». Est-ce que c'est le rôle d'un représentant à l'Assemblée nationale de libérer de cette manière la parole? On écoute la réponse de Joachim Son-Forget.
Relisez Clémenceau, relisez le langage certainement encore plus fleuri de Clémenceau à l'encontre du président d'alors ou alors de ses collègues, ou de Jaurès ou d'autres. Et vous verrez que l'insulte en politique, elle a sa vertu également. Et je ne crois pas que le peuple veuille des politiciens mous. Et même si je préfère me nourrir de choses plus raffinées, enfin, les gens savent un peu mon parcours, mon goût pour l'histoire, pour la musique ancienne, pour la philosophie, pour beaucoup de choses, mais il y a des moments où il faut savoir taper du poing sur la table. Il faut savoir ouvrir son cœur, et quitte à ce qu'il y ait des coups de gueule un peu violents, en tout cas véhéments, peut-être pas violents, non, mais en tout cas véhéments. Et excusez-moi de faire un petit point Godwin, mais a-t-on battu le nazisme avec des fleurs au fusil? Et non. Il y a des moments où il faut savoir se réveiller et savoir être percutant. Et une fois n'est pas coutume, et celle-ci était nécessaire. C'était la deuxième fois que M. Trump venait s'immiscer dans ce qui ne regarde pas, les affaires de la France, avec un langage extrêmement infantile et insultant. Et j'ai pensé qu'il fallait se mettre au niveau pour qu'il puisse comprendre. Et vraisemblablement, ça a aidé, puisque le message a été peut-être choc pour être repris. Et il a été repris, et je ne doute pas qu'il en a pris connaissance. On a quelques trolls sur Internet, bien sûr, j'ai reçu des insultes à caractère racial, des menaces de mort, mais j'ai pas peur, j'ai peur de rien, et surtout pas des extrêmes et des courageux anonymes qui ne tiennent pas leurs menaces. Donc, je suis fier d'avoir fait, et je le referai si c'est nécessaire, mais surtout, ce que je continuerai, c'est d'avoir une force d'esprit et de cœur contre des idées extrêmes, parce que je ne m'en nourris pas, et je pense qu'on peut donner autre chose au peuple, parce qu'il mérite bien mieux.
Place publique.
Tout comme Neuchâtel et Berne, le canton du Jura devrait permettre le vote électronique. Son Parlement a adopté de justesse un projet en ce sens il y a 3 semaines, mais les députés devront confirmer la semaine prochaine. Cette possibilité de voter ne doit concerner dans un premier lieu que les 2300 jurassiens de l'extérieur, avant d'être progressivement étendue à l'ensemble de la population. Mais des craintes se font entendre, la fiabilité et la sécurité du système ne seraient pas encore optimales, et parmi les il y a vous, Fabrice Maca. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes député socialiste au Parlement jurassien, membre de la commission de la justice qui a traité ce dossier. Alors pourquoi tant de craintes alors que la Suisse, tout de même, a réalisé plus de 200 tests, et ce depuis 2004, et avec succès?
Alors des craintes, oui, des craintes, car on parle de la Suisse, mais il faut aussi voir peut-être un peu plus largement ce qui se passe en Suisse et à l'étranger. Certains pays qui avaient introduit le vote électronique sont revenus en arrière parce que le système, et ils ont remarqué que ce n'était pas forcément une avancée de mettre en place un tel système. Et même en Suisse, il y a certains cantons qui ne sont pas actuellement forcément contents sur cette possibilité de vote électronique.
Mais on fait ses paiements en ligne, on envoie parfois des informations sensibles dans le cadre de sa profession. Pourquoi on ne serait pas capable d'organiser un vote de façon électronique?
Le vote électronique, donc l'acte de voter, est un acte citoyen qui est fort, qui doit être quelque chose au-delà d'un symbolique. C'est un droit civique. Il doit être exécuté d'une manière irréprochable, tant sur le point de la fiabilité que sur le point du contrôle et du dépouillement. Et nous estimons qu'il est trop tôt d'ouvrir ce vote électronique à l'ensemble de la population, car des risques sont encore présents et la fiabilité du système n'est pas encore totalement démontrée, malgré les tests, malgré les épreuves qui ont peut-être été mises. Un système informatique est toujours fiable avant qu'un hacker, qu'un pirate informatique ne trouve la faille. Et ces gens-là, croyez-moi, se font un malin plaisir de déjouer tous les systèmes, tous les pare-feux existants. Et bien souvent, malheureusement, ils y parviennent.
Mais Fabrice Maca, vous êtes tout de même prêt à tenter l'expérience avec les Suisses de l'étranger. Alors pourquoi accorder ce moyen de voter aux Suisses de l'étranger et pas vouloir le tester dans le Jura ?
Alors il y a plusieurs éléments à cette option. Déjà peut-être dire que pour nous, pour le groupe socialiste, à la base nous ne sommes pas forcément complètement ouverts et même pour le vote électronique complet. Mais nous sommes quand même d'avis qu'il existe un problème avec les résidents suisses de l'étranger parce qu'ils n'ont pas la possibilité complète de voter. Les communes remarquent régulièrement que des enveloppes de vote par correspondance arrivent après le week-end de vote. Donc ces votes sont nuls. Donc il existe vraiment un problème pour les Suisses de l'étranger pour réaliser donc leur droit civique. Donc c'est dans ce sens-là déjà de pouvoir vraiment améliorer la situation. Et puis il faut dire aussi que l'intérêt de manipuler un vote de Suisse de l'étranger de 2300 personnes est quand même assez faible pour un pirate ou pour une quelconque organisation. Donc ce n'est pas quelque chose, je pense, auquel il s'attaquerait volontiers si l'on compare une population totale résidente en Suisse.
Alors, à l'heure actuelle, 10 cantons proposent cette possibilité de vote aux électeurs suisses de l'étranger, dont Berne et Neuchâtel. Neuchâtel qui propose même à l'ensemble des électeurs de pouvoir glisser un bulletin numérique dans l'urne virtuelle. Ce canton de Neuchâtel qui joue un rôle de partenaire pour le développement de la plateforme de vote électronique proposée par la Poste, qui sera choisie normalement par le Jura. Alors, quels enseignements tirer de ces années de test, notamment au niveau de la fiabilité? Je vous propose d'écouter la réponse de Pascal Fontana, il est vice-chancelier de l'État de Neuchâtel.
Il faut dire que le canton de Neuchâtel utilise ou met à disposition des électrices et des électeurs la solution de vote électronique depuis 2005, sans interruption et sans bug, ce qui est donc une preuve de fiabilité de la solution de vote électronique neuchâteloise. Naturellement, c'est peut-être différent dans le canton du Jura, puisqu'à Neuchâtel, nous avons encore un portail qui s'appelle le guichet unique, qui est le portail citoyen pour accéder aux prestations de l'administration cantonale.
Mais dans quelle mesure vous avez la garantie qu'il n'y a pas de risque de piratage quand on sait que les cyberattaques n'épargnent personne, y compris RUAG?
Alors la chancellerie fédérale a élevé les contraintes pour mettre à disposition le vote électronique. Les exigences sont telles aujourd'hui que le risque de piratage est faible. Il ne peut pas être exclu, mais toutes les mesures les plus complexes sont prises pour éviter ce genre d'incident. C'est notamment avec le cas de l'introduction de la vérifiabilité individuelle et universelle. Et surtout, prochainement, la solution de vote électronique sera testée puisque le code sera mis à disposition des citoyennes et citoyens, mais aussi des tests d'intrusion seront faits par des hackers. Ces hackers ont la possibilité aujourd'hui déjà de s'annoncer auprès de la chancellerie fédérale et ils pourront ensuite tester la solution de vote électronique et peut-être découvrir des failles et dans ce cas-là les signaler.
Quand on parle de phase de test, depuis 13 ans, vous dites qu'il n'y a eu aucune faille, mais il y a bien quelques soucis de mise en place, ne serait-ce que du côté de l'administration cantonale. Est-ce que ça s'est vraiment passé sans encombre ou vous avez dû parfois résoudre certains problèmes?
Alors s'il y a des problèmes, ils sont humains, ils ne sont pas dus à la technique. Il n'y a jamais eu de problème à résoudre avec le vote électronique.
Est-ce que vous avez observé au niveau de la participation des effets positifs?
Le vote électronique n'a pas d'influence sur la participation. Par contre, il permet aux jeunes citoyens de s'intéresser au vote et d'utiliser le vote électronique pour s'exprimer. Mais de manière générale, nous n'avons pas constaté d'augmentation de la participation par ce biais.
Pascal Fontana, pour l'instant, seul 30% du corps électoral a la possibilité d'utiliser ce vote électronique. Qu'en est-il de la suite?
Alors, la solution pourra bientôt être mise à disposition de 50% des électrices et des électeurs, puis ensuite au 100%. Pour cela, nous devons d'abord certifier la solution de vote électronique. Pour ça, nous avons un audit en cours. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, des tests d'intrusion doivent être faits. Le code doit être mis à disposition de la population et ainsi nous arriverons à un seuil de 100%.
Pascal Fontana, vice-chancelier de l'État de Neuchâtel. Fabrice Maca, quand vous entendez ceci, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, ça m'inspire déjà une certaine volonté d'avancer dans ces technologies qui sont le numérique, la digitalisation. Par contre, on remarque que toutes ces avancées ne sont pas forcément des progrès pour la société ou pour la démocratie. Ces avancées technologiques amènent aussi des soucis et d'autres problèmes. Quant à la participation, Monsieur Fontana l'a bien dit, elle n'a pas augmenté. C'est à la base un des buts de ce vote électronique. Et si ce but-là n'est pas atteint, je me demande vraiment si ça vaut la peine de créer toute cette machine finalement pour arriver au fait que la participation ne va pas augmenter. Les reports, la participation ne va pas augmenter car les personnes qui votent par vote électronique votaient avant certainement par vote par correspondance. Je pense que c'est pas en mettant en place un vote électronique que l'on va intéresser un peu plus les gens à la politique, un peu plus les jeunes à la politique. Il y a d'autres choses à mettre en place. Il y a une confiance qui va certainement revenir entre les politiques et entre la population. Il y a peut-être un peu plus d'enseignement et d'initiation au niveau scolaire à faire, mais ce n'est pas en introduisant un outil informatique que l'on va intéresser les jeunes et la population à la politique.
En tout cas, ça ne fait pas baisser la participation et sans doute qu'à l'avenir, avec la digitalisation en marche dans à peu près tous les domaines, ce sera plus d'actualité. C'est en tout cas le pari qui est fait. Mais on comprend que vous puissiez avoir une analyse différente. Néanmoins, au niveau de la sécurité, qui est quand même l'aspect clé qui motive votre scepticisme, que dire de ces précautions et de ces tests ? C'est assez frappant ce que vient de dire M. Fontana, à savoir que des hackers pourront volontairement tenter de déjouer la sécurité d'un tel dispositif. Est-ce que ce n'est pas pour vous intéressant à tenter ? Est-ce que ce n'est pas pour vous de nature à vous rassurer ?
Alors non, pas vraiment. Déjà, on peut revenir sur la façon d'organiser ces tests. C'est assez quand même particulier de prévoir une récompense aux hackers qui pourront déjouer ces pièges. Je ne pense pas, parce que les hackers vont toujours chercher à déjouer ces pare-feux ou ces systèmes mis en place. Et puis, on a l'exemple du système Genevois. Alors, il est différent. On va nous dire qu'il est différent du système de la Poste. Mais le système Genevois a quand même eu des grandes failles assez rapidement. Et rien nous dit que le système de la Poste, qui est d'ailleurs hébergé et puis en lien avec une entreprise privée qui se situe en Espagne, rien nous dit que ce système sera attaqué par une organisation, par des hackers même individuels, et puis qu'il y ait de gros problèmes avec des grandes manipulations de bulletins de grande ampleur. Plus quelques bulletins qui seraient peut-être remplis par le beau-frère ou la sœur de quelqu'un, mais peut-être des centaines, voire des milliers de bulletins qui seraient complètement modifiés.
Vous l'avez dit et j'en termine avec ça. Ma dernière question, le vote avec bulletin dans l'urne ou par correspondance n'est pas toujours exempt de toute contestation. C'est pas considéré comme le plus fiable. Il y a qu'à voir la nature de certains recours à Moutier. Est-ce que paradoxalement, malgré tout, le vote électronique n'est pas à même de pouvoir rétablir une certaine confiance sitôt que son dispositif sera 100% fiable ?
Alors effectivement, il y a toujours des problèmes de peut-être de fraude ou même pas de fraude, mais de contournement des règles qui sont pourtant bien claires quand il y a un vote, peut-être à l'urne un peu moins, mais surtout au niveau du vote par correspondance. Par contre, rien ne dit que des soucis pourraient intervenir au niveau du vote électronique. Je ne suis pas persuadé qu'avec le cas, si vous prenez le cas de Moutier, s'il y aurait eu un souci qui serait intervenu dans le vote électronique, ça aurait certainement encore plus remis en question l'exactitude des votations. Et puis, j'ajouterais que le dépouillement standard, comme il se fait actuellement, permet quand même à tout un chacun d'aller contrôler le dépouillement, d'être présent au bureau de vote, d'avoir ce contrôle physique qui est encore possible, mais avec un vote électronique et un dépouillement qui sera totalement automatique, totalement informatisé, il sera quand même beaucoup plus difficile de contrôler d'éventuelles fraudes, d'éventuels problèmes. Après coup, ce sera vraiment très difficile de refaire les comptes et de remettre un peu de l'ordre là-dedans.
Merci Fabrice Maca d'être venu dans Place Publique. On entend bien votre point de vue, vos réserves par rapport à ce vote électronique. Nous verrons mercredi prochain si le Parlement jurassien confirme ou non sa volonté exprimée récemment du bout des lèvres d'introduire le vote électronique. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Place Publique.
Et vendredi, le Conseil fédéral devrait discuter de la conduite accompagnée dès l'âge de 17 ans. Cette mesure fait partie d'une grande réforme du permis de conduire, baptisée Opéra 3. Le projet mis en consultation l'année dernière prévoit aussi de simplifier la formation tout en la rendant moins chère. L'Office fédéral des routes insiste, les jeunes conducteurs seront plus expérimentés au volant au moment d'obtenir le permis. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les moniteurs d'auto-école ne sont pas rassurés et avec eux une partie du Conseil des États. Ils jugent que cette révision est potentiellement dangereuse pour la sécurité routière. Alors avant de savoir ce qui va se décider au Conseil fédéral, on en débat avec nos deux invités. Pierre-André Tombé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez l'Association suisse des moniteurs de conduite. Avec nous également Yves Gerber, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la communication du Touring Club Suisse pour la Suisse romande. Pierre-André Tombé, pourquoi s'inquiéter de voir les élèves conducteurs au volant dès l'âge de 17 ans ? Finalement, c'est plus d'expérience.
Ah, mais c'est juste. D'ailleurs, ils apprendront avec des gens qui roulent faux déjà à partir de maintenant. Donc, ça sera plus d'expérience, de mauvaises expériences, puisqu'ils n'auront pas eu les bases, les bonnes bases. Nous, on n'a strictement rien contre le 17e, on trouve que ça demande à réfléchir. Mais en tout cas, comme il est proposé pour l'instant, comme on pense qu'il est peut-être proposé, on n'en sait strictement rien. Sans accompagnement, sans formation préalable, ni de l'accompagnant, ni de l'élève, c'est une catastrophe. Parce que faire des kilomètres pour faire des kilomètres, il y a beaucoup de personnes âgées qui roulent depuis très longtemps, qui ont des exercices depuis très longtemps, et puis qui ont quand même des accidents, malheureusement.
Donc,
moi, je pense que seulement faire des kilomètres, c'est faux. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le Conseil fédéral, on ne sait même pas s'il va en parler vendredi. Donc, je pense que nous, notre but, c'est que Opéra 3 soit remis à la nouvelle conseillère fédérale qui va s'occuper de ce département à partir du 1er juin.
En tout cas, la presse dominicale alémanique soutient que Doris Leuthard est attachée à cette réforme. Mais c'est vrai, on n'en sait rien, on verra bien. En tout cas, c'est dans les pipelines. Pierre-André Tombé, quand même une question. Ce n'est pas un réflexe corporatiste de dire que les jeunes de 17 ans apprendront forcément faux.
Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait laisser faire les gens leurs immeubles tranquillement tout seuls, sans architecte et puis sans ingénieur, en disant que l'ingénieur, il veut simplement se protéger quand il veut calculer une dalle? Non, mais on est en train de se moquer un peu des moniteurs d'auto-école. Je vous rappelle que pour faire moniteur d'auto-école, on a 3 ans d'études. On fait un brevet fédéral. Donc si on nous met en comparaison avec un papa et une maman, qui, eux, pour apprendre du piano à leurs enfants, absolument prendre des cours rémunérés, sinon on ne va pas apprendre correctement le piano, mais qu'il ait une voiture, qu'il ait quelque chose où on peut se tuer avec. C'est des drames quand on se tue avec. Et puis j'aimerais quand même dire qu'on n'a jamais eu autant peu de morts en Suisse que maintenant. Donc maintenant vouloir dire on veut libéraliser pour que ça coûte tout simplement moins cher, mais qu'on puisse enfin avoir de l'argent pour acheter une voiture un peu plus chère et un peu plus puissante, sans avoir appris à aller avec, ça risque d'être compliqué.
Yves Gerber, vous qui êtes responsable donc de la communication pour le Touring Club Suisse, votre avis sur cette idée, alors on en connaît pas encore tout à fait les contours, mais quand même, autoriser des élèves conducteurs à partir de 17 ans à conduire accompagnés, ça vous semble aussi potentiellement dangereux que vient de le souligner Pierre-André Tombé?
Non, pas du tout, bien au contraire. Aujourd'hui, il y a 28 pays en Europe qui le font, la conduite accompagnée, y compris encore la Norvège et l'Islande. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune épreuve, étude qui nous prouve que, en fait, c'est dangereux. Il y a même 14 pays qui ont décidé d'avancer l'âge de la conduite accompagnée. Et pour reprendre, en fait, l'image qu'utilisait M. Tombé, vous parlez de piano. Le piano, vous rencontrez votre professeur qu'une fois par semaine. Le reste du temps, vous travaillez avec les parents, qui ne sont pas forcément...
Mais vous rencontrez le professeur une fois par semaine.
En fait, l'objectif de cette mesure, c'est de permettre à l'élève conducteur, parce qu'on n'est pas en train de parler du permis de conduire, mais du permis d'élève conducteur. Il est hors de question de mettre des jeunes de 17 ans avec un permis de conduire seul sur la route. C'est pas du tout ça. On est simplement en train de proposer d'avancer l'âge de la conduite accompagnée pour engranger des kilomètres. Le TCS a toujours recommandé de suivre des cours auprès de professionnels, mais c'est aussi bien de pouvoir être en contact avec la route au quotidien, de pouvoir engranger de l'expérience pour améliorer ensuite son comportement. Il y a des choses qui ont été prouvées. Voilà. En général, dans les 22 premiers mois que vous avez votre permis de conduire, c'est dans les moments où vous avez le plus de risques d'avoir des accidents. Après 2 années où vous avez votre permis, généralement, le risque d'avoir des accidents baisse de 80%. Si vous commencez plus tôt à être sur la route, eh bien, vous vous retrouvez plus rapidement en sécurité à avoir adopté un comportement qui est tout à fait sain.
Pierre André Tombé.
Alors, moi, j'aimerais juste répéter. Un, on ne sait pas ce que va décider le Conseil fédéral. Deux, on discute de conduite accompagnée. M. Gerber fait comme si c'était dans un pays merveilleux. J'aimerais quand même dire que pour le moment, dans les autres pays, quand on propose la conduite accompagnée dans de nombreux pays, et le plus grand nombre de pays, c'est qu'il y a une formation ou de l'accompagnant et de l'accompagner avant d'aller simplement engranger des kilomètres. Je l'ai dit, il y a des personnes âgées qui ont engrangé des millions de kilomètres qui font moment parce qu'ils n'ont pas été suivis de manière correcte. Donc, simplement faire des kilomètres pour faire des kilomètres, c'est faux. On doit avoir une formation. Mais on ne sait pas ce que propose le Conseil fédéral. Ce que j'aimerais dire quand même aussi, c'est qu'au TCS, il y a même des gens du TCS qui ne sont pas totalement d'accord avec ce qui est en train de se mijoter chez Mme Letarte. J'aimerais quand même rappeler que c'est assez cavalier de la part du Conseil fédéral qui arrête de mettre en place un projet personne ne connaît, qui a été mis en consultation. On a l'impression que tout ce qu'on a dit, en consultation n'a pas été pris en compte, et puis qu'on le prochaine conseillère fédérale. Si on parle d'une vision politique, ça c'est quelque chose, on vient dire que Mme Letarte est une conseillère fédérale exemplaire. Je pense que là, elle est en train de montrer une non-exemplarité qui est énorme. Et puis ça, on doit faire en sorte qu'il ne discute pas vendredi, parce que ça doit être mis en place par une future chef qui doit revoir ce projet et qui doit prendre en compte les mesures données dans la mise en consultation.
Yves Gerber.
C'est ça qui est important.
Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec vous, dans le sens où la consultation, elle existe depuis plus d'une année. Il y a eu la possibilité pour tout le monde de s'exprimer sur différents points, puisque ça ne touche pas uniquement à cette mesure-là, puisqu'il y en a d'autres. Il y a notamment de retoucher la deux phases, notamment. Et tout ça, ça fait partie d'études qui ont été menées depuis un moment. Ça fait depuis 2005, la deux phases, elle a été mise en place. Il y a déjà eu un travail qui a été mené pour voir qu'on pouvait que c'était perfectible, que ça a de bons résultats de faire ce permis en deux phases, mais que le cours lui-même pourrait peut-être être revisité. Toutes ces mesures qui sont proposées depuis quelque temps, ça fait très longtemps qu'elles sont sur la table. Le TCS, ça fait depuis des années qu'il milite pour la conduite accompagnée avant l'âge de 18 ans, c'est-à-dire dès 17 ans.
C'est pour ça qu'il est d'accord avec Mme Lechard maintenant. Alors, c'est tout.
Et donc, vous avez notamment avec vos confrères, il y a eu des symposiums qui ont été organisés. On a demandé plusieurs fois d'avoir des études qui prouvaient le contraire. On n'en a jamais présenté. Au contraire, on en a qui nous prouvent.
Non, mais maintenant, j'aimerais qu'on a.
On laisse Yves Gerber terminer. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin.
Oui, c'est moi.
Non, non, je suis pas d'accord. Non, c'est totalement.
Ça a été relevé
il y a rien qui a été pris.
Excusez-moi, vous pouvez me laisser terminer.
On laisse Yves Gerber terminer.
Non, faut arrêter. Non, on ne le laisse pas terminer.
Si, on laisse terminer, monsieur Tombé, je vous en prie. C'est la règle. Yves Gerber, à vous.
Ça fait 5 secondes.
Excusez-moi, mais je ne vous ai pas interrompu quand vous étiez en train de vous exprimer au début de.
Je pense que vous avez interrompu pour dire la vérité. Et puis vous
monsieur Tombé.
La vérité, je veux qu'on dise la vérité. Ça fait 5 secondes qu'on fait des remarques qui n'ont pas été prises en compte. Je m'excuse, M. Gerber, vous dites des mensonges quand vous dites qu'on était écouté.
Alors,
on n'a pas été écouté.
Monsieur Tombé, on vous a bien compris. Yves Gerber, le mot de la fin, s'il vous plaît. Et on en termine là.
Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, il y a énormément de pays qui ont introduit la conduite accompagnée. Effectivement, comme dit M. Tombé, c'est juste, c'est sous différentes formes. Mais en Autriche, par exemple, on a relevé que depuis qu'on a fait ça en baissant l'âge, on a baissé de 15% le nombre d'accidents sur la route. Ça prouve que...
Mais on est les meilleurs en Europe déjà maintenant. On est les meilleurs en Europe déjà maintenant.
Monsieur Tombé...
Mais faut pas
dire bêtises. Chacun son point de vue, c'est le principe d'un débat. On va pas vous mettre d'accord forcément sur ce point ce soir. En tout cas, on vous remercie infiniment pour cette discussion passionnée. Pierre-André Tombé, vous présidez l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite, et Yves Gerber, responsable donc de la communication du Touring Club Suisse pour la Suisse romande. Messieurs, bonne soirée, le débat continue. On le reprendra, c'est promis. On vous souhaite une bonne soirée, et vous la retrouvez cette émission, bien sûr, sur nos applications et nos sites web. Au revoir.
Place publique.